Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invité est la journaliste et romancière Colombe Schneck.
Moi, j'ai été sauvée par la lecture. Je viens d'une famille très aimante, mais il y avait ce passé catastrophique dont on ne parlait jamais, qui n'existait pas. Je lisais des annuaires, par exemple. Je lisais l'annuaire. Il y a cette époque où il y avait encore les gros bottins, et je lisais les bottins avec les noms et les adresses. Je cherchais des absents.
Comme moi, vous avez peut-être découvert Colombe Schneck à la fin des années 90 dans l'émission Arrêt sur image, où elle décryptait chaque semaine l'actualité des médias. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'elle avait été stagiaire quelques années plus tôt au bureau du journal Le Monde à New York, la ville qui inspire aujourd'hui son nouveau roman « Nuit d'été à Brooklyn », publié chez Stock. Nous sommes en août 1991 et Esther, son héroïne, tombe sous le charme de Frédéric, un professeur de littérature spécialiste de Flaubert. Il est noir, marié et père d'une adolescente. Leur histoire, impossible, se déroule au moment où, dans le quartier de Crown Heights, où cohabitent juifs orthodoxes et afro-américains, la mort accidentelle d'un petit garçon va entraîner des violences qui font écho aux tensions qui parcourent aujourd'hui l'Amérique. Et dont Colombe a bien voulu parler avec moi, alors qu'elle s'apprête à retrouver ses lecteurs pour ses premières dédicaces post-confinement. Bonjour Colombe Schneck.
Bonjour, bonjour à tous.
Ça va bien? Comment ça se passe ce monde post-confinement?
Il est en pleine révolution ce mode post-confinement et c'était c'est ce que j'espérais. Et je vois ce qui se passe, les manifestations qu'il y a en ce moment, tous réunis. Je suis quelqu'un de naturel assez optimiste et j'ai l'impression que les choses bougent, qu'on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne sont plus du tout possibles. Le racisme, les insultes, la violence. J'espère en tout cas. Je suis pleine d'espérance.
Alors si j'ai eu envie de parler avec vous, c'est parce que non seulement Nuit d'été à Brooklyn, votre dernier roman est un très beau roman qui mélange à la fois l'actualité et les sentiments, et parce qu'il y a cette dimension d'actualité qui nous frappe, même si l'histoire que vous racontez a lieu au début des années 90, on a l'impression que rien n'a trop changé. Alors est-ce que j'exagère un peu ?
Non, vous n'exagérez pas. J'ai lu hier que les premières manifestations contre la violence policière par des Noirs américains date du début du XXe siècle, en particulier après la Première Guerre mondiale, quand des soldats noirs américains reviennent d'Europe, où ils sont allés sur le front défendre la liberté en Europe, et ils sont à nouveau sujets non seulement à l'apartheid, à la ségrégation de leur pays, mais aussi à la violence policière. Donc c'est pas nouveau ce que j'écris en 1991 sur les violences policières, le racisme. Je l'écris parce que moi, jeune journaliste à New York, je suis confrontée à ça. Je le vois, c'est la première chose qui me frappe quand j'arrive à New York, alors que je suis jeune diplômée, j'ai fait des études d'histoire. Je pense que la ségrégation, les droits civiques, tout ça est une lutte qui date de la fin des années 60 et que tout ça est terminé. Ça, je me rends compte que non. Qu'il y a une ségrégation de fait aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle les lois Jim Crow qui empêchent les Noirs, par exemple, d'aller dans certains restaurants, certains magasins, certains lieux publics, mais que la ségrégation n'est plus dans la loi, mais elle est dans les faits. Et aujourd'hui, 30 ans après, non, il y a des minuscules progrès. Il y a plus de Noirs qui sont diplômés de grandes universités. Il y a une classe moyenne noire qui n'existait pas. Quand vous êtes un jeune noir et vous promenez dans la rue de votre ville, la peur est la même.
Alors, votre roman, il s'inspire effectivement de ce séjour de quelques années au cours desquelles vous avez travaillé aux États-Unis, et il s'inspire en partie d'une rencontre avec un jeune homme. Je trouve l'histoire très belle, qui avait peur de courir dans les rues de New York. Expliquez-moi.
Oui. Alors c'est un roman. Hein, l'histoire d'amour est entre une jeune femme de 24 ans, la jeune femme que j'étais, et un homme plus âgé qu'elle. Mais effectivement, je me souviens quand j'arrive à New York, j'apprends ce que c'est que la date, vous savez, cette ces règles de la séduction à l'américaine.
Tout à fait.
Et donc, on va prendre un verre avec quelqu'un, on se raconte ses vies, on échange des informations. Et puis, si on se revoit une deuxième fois, le jeune homme vous invite à dîner, là, c'est bien plus sérieux, etc. Donc, j'ai ma première date avec un jeune homme que j'ai rencontré dans une fête, qui est en costume, il est impeccable, il a des souliers avec des lacets à l'époque où je suis assez BCBG moi-même. Il est diplômé d'une grande université, il travaille dans l'édition, c'est un intellectuel, il parle français couramment, donc il est vraiment tout pour me plaire, a priori. Oui. Et on a rendez-vous dans un bar un soir, et il arrive en retard. Et il me dit, je suis en retard parce que je ne peux pas courir dans la rue. Il est noir. Il dit, si je cours dans la rue de New York, je vais me faire arrêter, malgré mon costume, bien que je fasse attention à la façon dont je m'habille, je ne mets jamais de casquette, je fais vraiment attention, et bien je risque de me faire arrêter. Si je me fais arrêter, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Et bien, un noir dans les mains d'un policier est en danger mortel. Et je n'en reviens pas. Moi, je n'ai jamais eu peur de la police. La police m'a toujours protégée. Et lui me dit le contraire. Et l'autre chose qu'il me dit, qui me bouleverse, c'est qu'il me dit quand les rues de New York à l'époque sont assez dangereuses, même très dangereuses. On fait attention, on m'a bien prévenu de faire attention quand je marche dans la rue le soir ou même la journée, de jamais être seule dans une rue. Ils me disent quand je vois une femme blanche marcher devant moi avec la rue un peu déserte, je traverse parce que je sais qu'elle va avoir peur. Et non seulement il a peur, mais il a aussi ce sentiment atroce de susciter la peur chez l'autre, chez cette femme blanche comme chez ce policier. Et il y a 4-5 ans, je lis un article dans le New York Times, un récit d'un jeune écrivain d'origine jamaïcaine qui raconte exactement la même chose. C'est-à-dire que 25 ans après 8 ans de présidence Obama, la peur pour un jeune américain noir de courir dans la rue est toujours la même.
On a même vu il y a quelques jours un jeune américain qui dansait dans la rue et qui a été interpellé parce qu'il dansait. Et parce que les voisins...
Oui, parce que danser, parce que vous courez, parce que le corps de jeune noir va faire peur. C'est horrible, c'est terrifiant. On l'a vu encore il y a quelques semaines, un jeune homme qui courait. Vous savez que les États-Unis sont un pays très ségrégué, donc il y a des quartiers blancs, des quartiers noirs. Et donc un jeune noir qui s'était aventuré en dehors de son quartier et courait dans des rues résidentielles blanches et être abattu parce que forcément un noir qui court dans une rue, c'est un cambrioleur ou... Et les assassins ont mis plusieurs semaines à être arrêtés, puisqu'on considérait, selon la loi de Géorgie où il habitait, qu'ils étaient en légitime défense. Oui, c'est bien terrifiant. Et j'ai le sentiment que dans ce moment où enfin on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Parce que les Noirs et les Blancs manifestent ensemble, enfin, à vrai dire, toute origine confondue, dans toutes les villes d'Amérique et à travers le monde, on a des manifestations qui sont, mixtes.
Et oui, des manifestations communes, et c'est nouveau. Et pour revenir à mon roman, 91 New York, je découvre un quartier qui s'appelle Crown Heights, qui est un des très rares quartiers aux États-Unis, ça, c'est à Brooklyn, où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Donc le voisinage ne se passe pas trop mal, même s'il y a des conflits de voisinage, de jalousie, des tensions. Les Blancs sont une communauté Lubavitch des Juifs orthodoxes, et les Noirs, en majorité, viennent de la Jamaïque, des Antilles, et quelques Afro-Américains. Mais grosso modo, on peut dire que ces Blancs et ces Noirs sont de la même classe sociale, petite bourgeoisie, quoi. Ils sont employés, chauffeurs de taxi, ils ont des commerces, il y a des médecins aussi, ils vivent ensemble, et parce qu'il y a un accident de voiture, un petit garçon noir va être tué par la voiture conduite par un juif. Pendant 3 jours, il va y avoir des émeutes raciales, antisémites, où des jeunes noirs vont crier à mort les juifs. Ça, c'est le contexte du roman.
Alors, ces tensions raciales et ce fait divers, j'imagine que quand vous arrivez aux États-Unis au début des années 90, vous avez 24 ans, c'est ça ? Je vous imagine, peut-être que je me trompe, mais pétri de culture américaine, de littérature, de films. Est-ce que l'expérience de la réalité est un choc par rapport à l'image que vous avez de l'Amérique à l'époque ?
Oui, je vais aller aux États-Unis parce que j'adore les films de Woody Allen et que j'ai vu Manhattan et Annie Hall, mais dans Manhattan et Annie Hall, on ne voit pas noir.
Ben oui.
Woody Allen filme ses égaux, enfin, il filme ceux qu'il connaît. Et je comprends qu'un artiste filme d'abord ce qu'on connaît, c'est-à-dire que ce qu'il connaît, c'est ces juifs new-yorkais tellement sympathiques, tellement névrosés, tellement drôles. Mais les Noirs américains, il ne les connaît pas. Je lis par exemple Philip Roth, mais
oui.
La tâche qui viendra quelques années après, en 2000, pareil, les Noirs américains sont peu présents dans les livres de Philip Roth. Je regarde la série américaine Happy Days, par exemple, qui se passe dans un lycée.
Oui.
Bien sûr, il y a des Noirs qui sont lycéens. Mais en tout cas, ces questions raciales, elles ne sont pas du tout... je ne les connais pas. Je ne les connais pas du tout.
Et vous pensez... Et donc, à l'époque, c'est un choc. C'est une forme de la réalité vous bondit à la figure.
Oui, elle me bondit dans cette conversation que j'ai avec ce jeune homme.
Oui, en positif aussi, il faut le dire.
Je vois bien que dans les quartiers où je vis, dans les rues, les seuls Noirs que je croise... Ils sont portiers, ils sont à la caisse, ils sont dans des métiers, disons, ces métiers qu'on découvre aujourd'hui, hein, d'ailleurs, on a découvert avec l'épidémie, qui sont essentiels dans le rouage d'une vie, mais qu'on ne voit pas. Et qui ne vivent pas dans le même quartier. Dans l'immeuble où j'habite, il n'y a pas de Noirs. Les Noirs vivent en haut de la ville, vers Harlem, mais il n'y a pratiquement aucun Noir qui habite dans le quartier où je suis. Ils sont dans la rue, mais ils ne sont pas dans les maisons. Ils viennent travailler, mais ils sont ailleurs. Et à ce moment-là, je travaille j'ai un petit boulot dans l'édition. Il n'y a pas de Noirs.
Ouais.
Il y en a très peu. Il y en a pratiquement pas. Et même dans des milieux intellectuels, disons de gauche ou vert, la ségrégation est la même.
Est-ce que par la suite, vous êtes régulièrement retourné aux États-Unis ? Est-ce que vous avez senti les choses changer ? Alors, on a dit que les choses ne changeaient pas tant que ça au regard de l'actualité, mais est-ce que vous êtes retourné souvent ? Est-ce que New York... Parce que ce qui est amusant, ce qui est intéressant dans le roman, c'est que vous avez une forme d'attraction-répulsion pour cette ville. Il y a des moments où vous adorez, des moments, les mêmes choses que vous adorez, vous les détestez. Je parle même de certaines odeurs, de certaines nourritures. Est-ce qu'au fil des années, vous avez continué à avoir cette forme d'attraction-répulsion pour New York et les États-Unis ?
Alors, il y a New York et les États-Unis, c'est deux choses vraiment qui n'ont rien à voir. Ce que j'adore à New York et ce que j'aime toujours, c'est que c'est une ville d'immigration, c'est-à-dire que vous êtes, en 2 minutes, vous êtes New-Yorkais. La plupart des New-Yorkais parlent avec un accent aussi étranger que le vôtre.
Oui.
Je suis là-bas, je connais les lignes de métro, de bus, je connais même si les commerces changent tout le temps, les restaurants, il y a quand même des bases que je connais, je sais marcher sans... Après, c'est assez facile de ne pas se perdre dans New York, mais je reconnais les quartiers, je me sens chez moi, même si j'ai vu que c'est devenu une ville de plus en plus riche et aussi une ville... maintenant, ce qu'on appelle les flagship stores, c'est-à-dire que maintenant, c'est une ville une espèce de grand mall commercial. Mais n'empêche que j'adore cette ville avec toute la répulsion que je peux avoir aussi, parce qu'il fait très chaud, parce que c'est sale, parce que c'est bruyant, mais c'est une ville que je continue à, qui continue à me faire rêver. Et quand je vois, je lis beaucoup de littérature américaine, et j'aime encore cette littérature qui se passe dans New York, même si ça s'est beaucoup déplacé vers Brooklyn. J'aime encore tous ces films américains où je marche dans les rues de New York, je lis la presse américaine. Mais pendant longtemps, je ne suis pas retournée à New York. Effectivement, je ne voulais pas retourner comme touriste.
Oui.
J'avais vécu là-bas, j'ai vécu là-bas plus de 2 ans. Et l'idée de retourner pour aller au musée, ça m'énervait. Donc, j'ai mis très longtemps à retourner à New York et je retournais régulièrement quand j'écrivais effectivement une unité à Brooklyn.
Alors, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux » et le but, c'est d'inviter les gens à faire l'expérience de la lecture pour ceux qui ne liraient jamais ou qui auraient un peu arrêté de lire à cause de la rapidité du monde actuel. Colombe, il y a des romans qu'on peut conseiller, hormis le vôtre, pour comprendre cette Amérique du racisme, cette Amérique noire. Je pense à James Baldwin que vous citez. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu de James Baldwin ?
Oui, c'est le personnage du livre, Frédéric, cite James Baldwin.
Oui, tout à fait.
C'est un grand lecteur, Frédéric, l'amour d'Esther. Et il dit, voilà, j'ai lu Flaubert, j'ai lu Dickens, j'ai lu tous ces grands auteurs. Mais c'est Baldwin qui m'a construit comme noir, qui m'a compris, qui qui m'a permis de définir ma colère. La colère du jeune noir américain, c'est cette idée que pour se faire accepter, il faut baisser la tête, il faut avoir ce sourire gentil, il faut se maquiller pour être accepté par le monde blanc. Et ça, c'est Baldwin qui le définit et qui l'explique de façon magistrale. Il y a La prochaine fois le feu, ce court texte de Baldwin, où il raconte bien son itinéraire et ça, oui, encore une fois, sa colère. Baldwin est quelqu'un de très souriant. Et on voit sur les photos, derrière, il a toujours ce grand sourire. Mais c'est un sourire dont il faut se méfier, qui masque une grande colère.
Ceux qui nous écoutent peuvent aller sur Twitter et sur le compte de Lina, puisque en ce moment, depuis 2-3 jours, il y a une très belle interview de James Baldwin en noir et blanc, où il parle couramment français, hein, il parle bien français.
Oui, parce qu'il est parti se réfugier en France dans les années 50. Voilà. C'était, dans l'émission de Pierre Dumayet, Lecture pour tous, vous pouvez l'écouter. Je l'ai revu aussi il y a quelques jours, c'est une magnifique interview. Oui.
Et c'est quelqu'un qui explique parfaitement des choses qui effectivement ont lieu encore aujourd'hui. Il y a d'autres romanciers noirs américains aujourd'hui qui racontent ça.
Moi, je conseillerais Ta-Nehisi Coates. Alors, j'ai pas le titre en français, mais The Case for Reparation, la cause pour la réparation. Le livre a été traduit en français.
Tout à fait. Ouais.
Il raconte bien. L'héritage de l'esclavage, c'est-à-dire comment l'esclavage, les 400 ans d'esclavage aux États-Unis sont encore très présents dans la vie des États-Unis, comment le fait que les Noirs américains ont été traités comme des bêtes le sont encore aujourd'hui, que ça reste prégnant, que cette idée que le Noir américain serait inférieur, serait une bête, bonne à être trimballée, maltraité, insulté, reste fondamental dans la société américaine aujourd'hui. Aussi dans d'autres genres, peut-être Thomas Chatterton Williams, qui est aussi traduit en français, qui lui a une vision peut-être peut-être moins violente, plus optimiste. Sa mère est blanche, son père est noir, elle a grandi dans le New Jersey dans les années 80. Il est plus jeune et il raconte bien aussi comment il a failli devenir noir, enfin devenir noir dans ce que c'est que devenir noir pour un blanc, c'est-à-dire sombrer dans ce cliché du noir qui serait un dealer et bon à aller en prison, quoi. Et comment il s'en est sorti. C'est un récit que je vous conseille. Voilà, je peux aussi vous conseiller. Comment on est plié finalement au regard que les autres, que la société a sur vous, et que si vous voulez vous en sortir de cette image qu'on vous impose de vous-même, il faut une volonté gigantesque.
On en vient à quelque chose dont je parle souvent avec les invités dans mon podcast. C'est une des beautés, une des forces du livre et de la lecture, c'est de nous faire rentrer dans la tête des personnages, de l'auteur et des personnages, mieux que n'importe quelle autre forme d'art, d'expression, de médias. Les livres, ça nous permet effectivement de nous mettre dans la peau de James Baldwin quand il vit cette forme de ce racisme, cette pression sociale et physique même qu'il éprouve. Ça, il n'y a pas mieux que les livres pour ça.
Oui, je suis d'accord. Je lisais hier un livre qui n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis, mais qui se passe au Venezuela. Ça s'appelle La fille de l'Espagnol. Attendez, je vais vous retrouver le titre.
Oui.
Moi, j'ai lu beaucoup j'ai lu des articles de presse sur ce qui se passe au Venezuela, sur la répression des manifestations, sur la violence, la pauvreté au Venezuela. Et là, dans ce roman, elle s'appelle Karina Sainz-Borgo, La fille de l'Espagnol, traduit par Stéphanie Descamps chez Gallimard. On est avec une jeune femme qui subit la violence et la répression au Venezuela aujourd'hui. Et ça a une force inouïe parce qu'on est avec elle dans son corps, avec la faim, avec son angoisse, avec cet enfermement qu'impose Maduro et sa clique au Venezuela. Et c'est un roman extrêmement fort que je vous recommande aussi.
Alors, je vais vous faire disserter, Colombe, comme tous les invités, sur le titre du podcast. Les gens qui lisent sont plus heureux. Est-ce que vous êtes d'accord, Colombe Schneck?
Est-ce... Oui, je suis assez d'accord. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai été sauvée par la lecture. Je viens d'une famille très, très aimante, mais il y avait ce passé catastrophique dont on ne parlait jamais,
oui.
qui n'existait pas. Et donc, il y avait quand même quelque chose d'assez mortifère, mais que je ne sentais pas, que je ne comprenais pas enfant. C'est en lisant, je lisais tout ce que je pouvais, sans savoir ce que je devais lire d'ailleurs. Je lisais des livres qui n'étaient pas forcément de mon âge, je lisais n'importe quoi. Je lisais des annuaires, par exemple.
Ah
je
oui.
lisais l'annuaire. Il y a cette époque où il y avait encore les gros bottins. Et je lisais les bottins avec les noms et les adresses. Je cherchais des absents. Lire m'a permis de remplir des trous béants qui étaient dans l'histoire de ma famille.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne disait pas.
Parce qu'on ne disait rien. On ne disait rien sur la catastrophe qui était avant nous, qui était celle, voilà, qui était liée à la Shoah, à la Seconde Guerre mondiale. Mais dans toute famille, il y a des absents. Dans toute famille, il y a des catastrophes. La nôtre était assez, disons, gigantesque. Mais je pense qu'il n'y a pas de famille sans catastrophe derrière elle.
Oui.
Donc, lire permet de... Et des choses ne sont pas forcément dites, elles sont rarement dites d'ailleurs, parce qu'on ne les connaît pas parfois. Mais dans toute famille, il y a une histoire d'immigration, il y a une histoire de rupture, il y a des, il n'y a pas d'histoire familiale sans catastrophe. Enfin, je ne crois pas. Et c'est le lire qui m'a permis de peu à peu de me construire et de me construire. C'est Houellebecq qui dit ça. Je ne suis pas une grande fan de Houellebecq, mais il y a une phrase très, très belle dans un de ses romans où il dit « Seule lecture vous permet d'être en contact direct avec un autre être humain », ce que vous disiez tout à l'heure. Cet être humain, il est peut-être né il y a 4 siècles en Chine, et pourtant vous aurez un contact direct avec son esprit. Et ça, c'est une richesse inouïe. Il n'y a pas de mort en littérature. La mort disparaît.
La mort disparaît. Alors, il y a la... Il y a la lecture et puis l'écriture. Alors, les romans, c'est le prolongement de votre travail de journalisme, puisque vous avez écrit et aussi fait de la télévision. Est-ce que c'était une évidence de passer au roman à un moment de votre vie ? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure un peu comme ça ?
Alors, je dirais qu'il y a un prolongement direct entre... la lecture, je suis d'abord une lectrice, et l'écriture. Je dois vous avouer que parfois, il m'arrivait d'oser penser, mais je refermais cette pensée en me disant qu'elle était inaccessible,
oui.
que peut-être qu'un jour j'écrirais un livre. Mais ça me paraissait, peut-être parce que je suis une grande écrivaine, ça me paraissait un rêve inaccessible. Il fallait mieux le refermer, ne pas y penser. Et en fait, j'écris mon premier livre assez tard, j'avais 39 ans, un peu par hasard, sans faire exprès d'ailleurs, parce que j'avais une histoire à raconter.
Oui.
J'avais découvert que dans un vieux Paris Match, mon grand-père avait été assassiné et que dans tous les journaux de France, on disait que Monsieur Schneck, Max Schneck, mon grand-père, antiquaire à Strasbourg, avait été assassiné par son amant et travaillé dans une valise à travers toute la France. Donc, vous imaginez le choc que ça peut être et le choc même romanesque.
Complètement, oui.
Je n'avais pas le choix, il fallait que je connais cette histoire et que j'écrive ce premier livre. J'écris ce premier livre sans savoir si c'était un livre ou pas. D'ailleurs, je me disais, c'était presque comme le pari de Pascal. Vous savez, je vais écrire quelque chose. Peut-être que ce sera un livre, peut-être que ce ne sera rien, mais tentons. Et puis, j'écris ce premier texte. J'ai mis un an, presque en cachette, parce que je ne savais pas vraiment ce que ça allait donner. Je m'attendais que ce ne soit pas grand-chose. Et puis, je l'ai relu un été. Je me dis, mais ce n'est pas si mal. J'ai vu comme l'écrit, mais c'est pas si mal. Et puis après, j'ai mis encore plusieurs mois à oser l'envoyer à des éditeurs parce que je me disais peut-être qu'ils vont se moquer de moi. Et c'est grâce à Jean-Marc Roberts qui l'a lu et qui m'a rappelé que tout d'un coup j'ai compris. Et c'est lui, parce qu'il me l'a dit, que j'allais écrire.
Et vous diriez qu'aujourd'hui, grâce à la réalisation de ce rêve, vous vivez la meilleure période de votre vie ?
Je veux dire, je suis très heureux. Je n'en reviens pas.
Ouais.
Je n'en reviens pas d'aujourd'hui de vivre des livres. Dire que je passe mes journées ou à lire ou à écrire. Je n'en reviens pas de la liberté que j'ai. Je trouve que c'est extraordinaire.
Je demande parfois à des romanciers, mais sur le mode un peu pour les taquiner un peu, est-ce que vous pensez que dans 5 ou dans 10 ans, on vendra encore des livres? Quand on voit le succès des plateformes de streaming, des séries, quand on voit le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y aura encore de la place pour les livres dans nos vies? Alors, j'ai envie de répondre que oui, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes un peu inquiète quand même, Colombe?
Moi, je suis d'un naturel, espèce de mélange d'inquiétude et d'optimisme, et je ne sais jamais laquelle partie va battre l'autre. On aura toujours besoin d'histoire, c'est pas moi qui le dis, mais on a besoin d'histoire, c'est l'histoire qui nous sauve. On le sait depuis la préhistoire, on racontait des histoires. On dit consommer, c'est terrible, je regarde des séries, mais très vite, je suis fan de certaines séries, puis très vite, je suis lassée. Oui. Puisque dans les séries, il y a comme une forme qui revient qui est toujours la même. Chaque livre doit inventer une forme. Quand vous commencez un livre, vous devez à chaque fois réinventer. Il n'y a pas d'expérience en littérature. Il n'y a pas de « je sais faire parce que j'en ai fait un avant ». Ce qui est le cas pour une série. Il y a comme des règles assez techniques, il y a une forme qui s'impose, trois histoires qui se mêlent, il y a quelque chose comme une arène. En littérature, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'expérience. Chaque livre doit réinventer. Donc à chaque livre, en tout cas quand vous lisez un bon livre, vous êtes surpris. Vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer. Dans un bon livre, tout va vous surprendre. L'écriture, la forme, c'est pour ça qu'on ne peut jamais se lasser de l'écriture, on ne peut jamais se lasser de la lecture. Alors que je crois que dans la forme de la série, et encore une fois, hein, j'aime beaucoup, on se lasse, mais au bout d'un moment, je passe à autre chose parce que j'ai l'impression que voilà, il faut que ce soit vraiment très très fort. Mais j'ai l'impression que je suis dans une arène parce que c'est une arène, une série, et que. Et que finalement, on se lasse. Alors qu'on ne se lasse pas la littérature qui doit se réinventer en permanence.
Alors parlons un petit peu des réseaux sociaux. Colombe, les réseaux sociaux, vous, ça vous plaît? Vous avez un compte Instagram très très chouette qui en ce moment est complètement le prolongement du livre. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu?
Alors, est-ce que j'aime plaire les réseaux sociaux? Je ne sais pas si ça me plaît, mais... je me rends compte que j'ai pas. Voilà, il faut que. J'avais ce compte Instagram, je ne sais pas trop quoi en faire. Poster des photos de moi, bon, les gens sont contents, mais je ne vois pas tellement l'intérêt. Je posais des articles sur mes livres, mais pareil, c'est pas très intéressant. Et puis, pendant le confinement, peu à peu, mais encore une fois, sans vraiment réfléchir, il ne se passait plus rien. Mon livre était enfermé en librairie. Il y avait peu. Voilà, je ne pouvais pas aller rencontrer les lecteurs dans les libraires. Dans la librairie, et donc je ne pouvais pas répondre à des questions, mais moi j'avais envie de parler de mon livre. Et donc peu à peu, j'ai répondu à des questions imaginaires, c'est-à-dire comment j'avais écrit. Et donc, comment on écrit un livre, comment on écrit un roman, et bien on prend des petites pierres, des petites choses, des petits détails matériels minuscules qui sont une photo, un souvenir, une paire de baskets, et de ces petits faits matériels, on va construire une œuvre imaginaire. Et donc, ce que j'ai mis sur Instagram, c'est tous ces petits cailloux, tous ces éléments qui m'ont permis, ça peut être une assiette, ça peut être un article que j'ai lu, une histoire qu'on m'a racontée, qui m'ont permis de d'écrire ce roman. Et donc, j'ai finalement raconté en quelques mois, pendant ces quelques mois de confinement, les coulisses de l'écriture de Nuit d'été à Brooklyn.
Et vous allez continuer ?
Alors là, je continue, mais c'est plus les coulisses du roman, c'est parce que l'actualité, malheureusement, fait écho pleinement à ce que j'ai tenté de raconter dans ce livre. Je tente de raconter ce que je n'ai pas pu mettre dans le livre, parce que le livre n'est pas un document, ce n'est pas une enquête journalistique, mais j'ai retrouvé des histoires, je me dis que c'est le moment de les raconter, parce que je n'ai pas pu les mettre dans le livre, par exemple, sur l'accès à l'éducation des jeunes des enfants noirs. Quand bien l'éducation leur est niée. Là, par exemple, je suis une plainte faite par sept enfants et leurs parents d'un district du Michigan, où 97% des enfants sont noirs ou hispaniques. Et le fait que, par exemple, beaucoup d'enfants ne savaient pas, à l'âge de 7 ou 8 ans ou 10 ans, ne savent toujours pas lire et écrire parce qu'ils sont 50 enfants par classe, parce qu'ils n'ont pas de manuel scolaire, parce que les enseignants qu'on leur envoie ne sont pas formés. Par exemple, c'est un professeur de gym parce qu'il n'y a personne d'autre. parce qu'à cause de l'absentéisme aussi de ces professeurs qui travaillent dans des conditions très difficiles, parfois pendant des jours et des semaines, ils n'ont pas classe. On les envoie au gymnase regarder des films. Tout ça fait que leur accès à l'éducation leur est nié. Et c'est la première violence qu'ils subissent avant la violence policière, c'est le fait de ne pas pouvoir être éduqué. Donc, mon compte Instagram me permet voilà, de raconter cela.
Alors, pour revenir sur l'actualité, Colombe, il y a beaucoup de débats en ce moment sur le fait que, est-ce que oui ou non, la France et les États-Unis, c'est la même chose sur ces questions-là. Et je voulais vous soumettre ce qui a été écrit l'autre jour par Virginie Despentes dans son texte, où elle dit qu'au cours de sa carrière, elle a été interviewée une fois par un journaliste noir. Est-ce que, à travers ce prisme-là, est-ce que la France et les États-Unis, c'est la même chose? Ou est-ce que c'est très différent?
C'est pas la même histoire. Aux États-Unis, il y a sur le sol américain une histoire de l'esclavage, une histoire de lynchage, une histoire de ségrégation, d'une violence qui, heureusement, ne s'est pas exercée en France, sur les territoires français. En France métropolitaine, en tout cas. Puisque l'esclavage a perduré aux Antilles. Donc, on sent qu'on ne peut pas comparer l'histoire de la violence. Je pense que, en disant c'est la même chose, on banalise ce qui se passe pour les Noirs américains, qui sont dans une situation catastrophique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme en France, il y a énormément de racisme. On voit aussi de violence de la police contre une partie de ce qui forme les citoyens français. Mais je ne crois pas qu'on puisse... Il y a une ségrégation, mais j'ai eu, par exemple, moi j'étais élevée dans une... Je le raconte pour Esther. J'ai fait mes études dans une école privée parisienne assez chic qui s'appelle l'école alsacienne, qui est dans le 6e arrondissement, qui reçoit beaucoup de familles d'intellectuels. Il y avait des enfants noirs dans ma classe. Il y avait des professeurs noirs et des enfants noirs. Il y en avait peu. Mais il y en avait. Et j'ai bien sûr été aussi interviewée par des journalistes noirs, j'ai travaillé avec des noirs, même si il y a beaucoup d'écrivains noirs en France. Mais je comprends aussi ce que veut dire, et je comprends ce que veut dire Virginie Despentes. Mais je l'ai écouté, je l'ai, ce qu'on a dit, retweeté, oui. Sur ce qu'elle dit du privilège blanc. Mais j'ai aimé aussi la réponse de Tania de Montaigne, qui dit qu'on parle de privilège blanc, on met encore une fois de côté, comme si on serait les victimes permanentes. Et puis, si on dit privilège blanc, il faudrait distinguer les blancs riches des blancs pauvres. On fait des catégories et ce que rappelle Tania de Montaigne, c'est qu'on est quand même une seule humanité et c'est bien de le rappeler aussi.
Allez, toute dernière question, après je vous libère, Colombe. Hein? Est-ce que vous avez hâte de retrouver les lecteurs en librairie pour des signatures, des rencontres? Est-ce que ça vous manque et est-ce que vous avez hâte que ça recommence?
Alors, je commence déjà samedi prochain, je vais dans la librairie en Bourgogne.
D'accord.
Donc, ça y est, ça va commencer. Mais effectivement, vous écrivez un livre, et puis après, les lecteurs s'en emparent et vous racontent leur histoire. Chaque livre, quand vous lisez, le livre vous appartient. C'est votre histoire, c'est plus l'histoire de l'auteur. Moi, le livre que je lis, c'est mes livres. Voilà, oui. Ils ne me parlent qu'à moi, ils ont été écrits pour moi. Et ce regard-là des lecteurs qui s'emparent de votre texte, oui, bien sûr, ça me manque.
Ok, bah, écoutez, Colombe, je vous dis à très bientôt. Bon courage, bonne chance pour ce déconfinement et ces premières rencontres. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture !